Chapitre 42. La charge tentée par Publius sur les Parthes avait, au reste, donné un peu de relâche à l'armée. Crassus, voyant moins pressé qu'auparavant, avait rallié ses troupes qui, tout en conservant leur rang, s'étaient mises en retraite vers une suite de collines qui pouvaient quelque peu rompre l'effort de la cavalerie parthique. Ses yeux étaient constamment tournés, par un double espoir, vers ce point où avait disparu son fils et par où il s'attendait à le voir revenir. Publius, de son côté, avait dépêché plusieurs ordonnances à son père, lui demandant du secours. Mais les premiers envoyés étaient tombés sous les flèches des Parthes. Au moment extrême, Publius avait renouvelé la même tentative. Un messager était parvenu, en échappant à 1000 morts, à traverser les rangs ennemis, et au moment où Crassus allait atteindre la première de ces collines vers lesquelles il battait en retraite, il avait rejoint Crassus, qui, voyant un cavalier accourir à lui à toute bride, s'était arrêté pour l'attendre. « Crassus, lui avait crié celui-ci, ton fils et les siens sont perdus si tu ne leur envoies promptement du secours. » Puis, comme si le cavalier n'avait eu de force que pour venir et prononcer ses paroles, il était tombé de cheval après les avoir dites. Crassus demeura un instant indécis. Puis la nature l'emporta et il ordonna à l'armée de marcher au secours de son fils. Mais il n'avait pas fait 100 pas dans la direction indiquée que, de tous côtés, de nouveaux cris retentirent en même temps que redoublait cet effroyable mugissement du tam-tam. Les Romains s'arrêtèrent, s'attendant à un nouveau combat. Alors reparurent les Parthes. Ils s'étendaient toujours circulairement autour des Romains, tandis que, cependant, un groupe plus épais marchait droit à eux. Ce groupe était précédé d'un homme portant une tête au bout d'une lance, et cet homme criait « Quels sont les parents? Quelle est la famille de celui dont voici la tête? On dit bien que son père s'appelle Crassus, mais nous n'en croyons rien. Il est impossible qu'un jeune homme d'un cœur si noble et d'une valeur si brillante que celui à qui appartenait cette tête soit le fils d'un père si lâche et si dépourvu de cœur. » Les Romains virent cette tête et la reconnurent pour celle de Publius. Mais personne ne répondit, excepté Crassus, qui jeta un cri de douleur et cacha son visage derrière son bouclier. Les Romains avaient, dans cette journée, vu des choses bien terribles, mais aucune qui leur brisa le cœur à l'égal de celle-ci. Les cœurs les plus forts frémirent. Les âmes les mieux trempées se trouvèrent défaillantes, si bien qu'au milieu de toutes ces faiblesses, ce fut le malheureux père qui, le premier, reprit courage. Il regarda autour de lui d'un air résolu. Puis, voyant tout le monde abattu par la douleur plus encore que par la crainte, « Romains, s'écria-t-il, cette douleur ne regarde que moi. La fortune et la gloire de Rome reposent en vous. Relevez donc la tête. Tant que vous vivrez, Rome sera intacte et invaincue. Si vous avez pitié d'un père qui perd un enfant fameux par son courage, changez votre pitié en colère et tournez cette colère contre l'ennemi. Ne vous laissez point abattre par ce qui arrive. Ceux qui tentent de grandes choses doivent passer par de grands malheurs. Ce n'est point sans qu'il en ait coûté du sang que Lucullus a vaincu Tigrane et Scipion Antiochus. Nos ancêtres ont perdu en Sicile 1000 vaisseaux et en Italie bon nombre de prêteurs et de généraux. N'ont-ils pas toujours fini par être les maîtres de ceux qui d'abord étaient vainqueurs? Ce n'est donc pas, croyez-le, par la faveur de la fortune, mais par une fermeté inébranlable et par leur courage à affronter les grands périls que les Romains sont parvenus au degré de puissance qu'ils ont aujourd'hui. Allons, soldats, ajouta-t-il, le cri de guerre, et prouvons à ces barbares que nous sommes toujours les Romains, maîtres du monde. Et lui-même, alors, poussa le premier cri de guerre. Mais ce cri n'eut qu'un écho faible, rare, inégal, languissant. Au contraire, les Parthes y répondirent par un cri général, éclatant, sonore et plein de force. Aussitôt, l'action commença. La cavalerie parthique se répandit sur les ailes, prit l'armée en flanc et recommença de faire pleuvoir cette épouvantable grêle de flèches qui avait déjà coûté si cher aux Romains, tandis que la première ligne de l'ennemi, armée des pieux, les resserrait dans un petit espace. Mais, au moins, ces hommes armés des pieux, on pouvait les joindre. Quelques soldats romains, pour en finir plus tôt avec l'agonie, se jetèrent sur eux, et ceux-là moururent d'une mort épouvantable, mais prompte. Le large fer des épieux passait au travers du corps de l'homme et pénétrait jusque dans le corps du cheval. L'on vit des coups si rudement portés qu'ils perçaient deux soldats à la fois. Le combat dura ainsi jusqu'à la nuit. Les Romains étaient près de 30 000. Il fallait le temps matériel de les tuer. Les Parthes se retirèrent en criant « Crassus, Crassus, nous t'accordons cette nuit pour pleurer ton fils, à moins que, la nuit te portant un bon conseil, tu ne consentes à être conduit volontairement devant Orodès au lieu d'y être traîné de force. » Après quoi, ils dressèrent leurs tentes côte à côte des tentes romaines, comme pour garder leurs prisonniers, et leur ôter tout espoir de fuite. Les Parthes passèrent la nuit en musique et en fête. Quant aux Romains, leur nuit fut sombre et silencieuse. Ils ne s'occupèrent ni d'ensevelir les morts, ni de panser les blessés. Les blessures, on le savait bien, étaient inguérissables. Nul ne pensait donc aux autres, chacun pleurait sur soi-même. Et, en effet, il semblait impossible d'échapper à la mort, soit qu'on attendît le jour et le destin, soit qu'on essayât de fuir à travers des plaines sans bornes. D'ailleurs, si l'on fuyait, que faire des blessés ? Les emporter, c'était rendre la fuite impossible. Les laisser, c'était la rendre plus impossible encore, puisque leurs cris, leurs imprécations, en voyant qu'on les abandonnait, dénonceraient cette fuite à l'ennemi. Crassus était l'auteur de tous ces mots. Cependant, chacun voulait le voir et l'entendre. On espérait que de la suprême autorité, qui eût dû être la suprême intelligence, descendrait quelques rayons d'espoir. Mais lui, retiré dans un coin de sa tente, couché la face contre terre, la tête voilée, il semblait la statue de l'abattement. Parce que deux hommes passaient avant lui dans la République, Pompée et César, il avait cru que tout lui manquait, et il venait de sacrifier des milliers d'hommes à cette ambition, qui, au lieu de faire de lui le premier de ses concitoyens dans la gloire, en faisait le premier par le malheur. Les deux lieutenants, Octavius et Cassius, firent ce qu'ils purent pour relever le courage de Crassus. Mais voyant que c'était peine inutile, ils résolurent d'agir sans lui. Ils rassemblèrent les centurions et les chefs de bande. On prit l'avis de chacun, et l'avis de la majorité fut qu'il fallait à l'instant même et sans bruit lever le camp et battre en retraite. Il n'y avait, à tout prendre, en s'orientant bien, que 5 heures de marche pour arriver à la ville de Carès. Un chef de cavalerie nommé Ignatius fut chargé, non pas de commander l'avant-garde, mais d'éclairer le pays avec 300 cavaliers. Il savait le chemin et répondait, si on voulait le suivre, de ne pas faire faire fausse route à l'armée. Il monta à cheval avec ses hommes et sortit du camp. Mais alors ce que l'on avait prévu arriva. Les blessés s'aperçurent qu'on les abandonnait. Ils poussèrent des clameurs qui, à l'instant même, portèrent le désordre parmi ceux qui étaient sains et saufs. Ceux qui avaient pris les devants s'imaginèrent, en entendant ces cris, que les Parthes venaient de faire invasion dans le camp romain et étaient à leur poursuite. Ignatius et ses 300 hommes prirent le galop. Vers minuit, en effet, ils arrivèrent à Carès. Mais leur crainte était si grande qu'ils ne se crurent pas en sûreté derrière les murailles de la ville. Ils se contentèrent de longer les remparts en criant aux sentinelles « Dites à Coponius, votre commandant, qu'il y a eu une grande bataille entre Crassus et les Parthes. » Et sans donner aucun autre détail, ils continuèrent leur chemin, gagnèrent le pont et mirent la rivière entre eux et l'ennemi. On rapporta à Coponius ce qui venait d'arriver, et on lui répéta les paroles que semblait avoir jetées, en passant, l'esprit de la nuit. Alors, lui comprit que cet avis lui avait été donné par des fuyards. Il commanda en conséquence aux troupes de prendre les armes, fit ouvrir les portes et s'avança d'une lieue à peu près dans le pays par lequel, en cas de défaite, il pensait que devait revenir le reste de l'armée de Crassus.